De retour pour Radio Festoche, la radio loin, 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 loin d'être fastoche, mais tout près de la musique qui se joue pour les 40 ans du festival, le 40 ans de la fraternelle, 40 ans du festival. Je suis déjà dans le futur. Peut-être que dans 40 ans, Taxman, on sera ici à parler d'il y a 40 ans quand on a lancé Radio Festoche. Mais 40 ans avant nous, 40 ans avant cette deuxième émission et cette première tentative au sein de la fraternelle, il y avait d'autres musiques qui se jouaient déjà dans le bistrot. C'était même le nom des rendez-vous, ça s'appelait Jazz au Bistrot. Enfin, si on se plante, il y a quatre cocos à côté de nous, monsieur Taxman, pour nous corriger, en tout cas corriger le tir. Avant qu'il nous corrige, il va falloir qu'on bande nos muscles. Messieurs, bonjour. Vous, le quatuor que vous formez est à l'origine du jazz à Saint-Claude, du jazz au bistrot, du jazz à la frat. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? Jazz au bistrot, jazz à la frat, jazz à Saint-Claude, comment ça s'est passé? Qui a lancé les hostilités pour créer Jazz au Bistrot?
Allez, je dis un mot. Bonjour.
Bonjour.
Préexistait une association paramunicipale qui s'appelle les Amis des Arts. Et donc on faisait partie de cette association. Et qui avait une vocation à proposer une programmation assez large, qui convenait à pas mal de personnes à Saint-Claude, mais moins à nous, parce qu'effectivement, on était vraiment désireux de développer ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques actuelles. C'était un terme qui n'existait pas à l'époque. Et du coup, on s'est un petit peu adapté à ce qu'on attendait de nous, mais quelque part, il fallait qu'on cherche à faire exister cette passion qui nous dévorait. Et donc, du coup, on a organisé quelques concerts à travers cette association, mais tout en cherchant un lieu qui puisse accueillir notre projet. Et donc, on a déjà identifié un premier lieu chez un privé. Ça a fonctionné quelques temps, une petite année avec un jazz au bistrot, avec un thé au bout de bistrot, mais on n'était pas réellement satisfait, quoique très content de pouvoir enfin programmer des musiciens de jazz. Et donc on avait cette mission de trouver un lieu, et Alain Brustel, qui est là, a identifié cet espace qui est juste à côté, et qui à l'époque était un lieu de stockage, de meubles. Et je pense que Alain ou Jean-Louis peut prendre le relais.
Alain ?
En fait, c'était l'ancien café de la Maison du Peuple. Mais à l'époque, comme les anciens coopérateurs qui ont créé la nouvelle fraternelle n'en faisaient rien, c'était effectivement devenu un lieu d'entreposage de meubles. On savait qu'il ne s'y passait rien, donc on a proposé aux anciens de faire des concerts. Au début, ils étaient un peu méfiants, assez sceptiques. Ils avaient surtout peur que le clergé vienne mettre les pieds dans la maison. Ça, c'était les premières réactions.
Sérieux, le clergé?
Oui.
C'est marrant.
Oui, la question, c'était, est-ce qu'il y a des curés parmi vous? Je leur ai répondu, mais vous inquiétez pas, je me porte garant.
On vient de les manger.
Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire un premier concert qui a marché du tonnerre de Dieu avec une super équipe.
Premier concert, c'était quoi? Le groupe, la programmation?
Le groupe de Saussonnier.
C'était l'Ons Jazz Quintet. Voilà. C'était des amateurs, en fait, qui venaient pour rien.
Qui sont venus à titre gratuit, d'ailleurs.
Ouais.
Donc voilà, il a tout fallu très rapidement concevoir avec ce qui se promenait, ce qui se baladait dans les caves de la frat. Donc des palettes, des bouts de moquette, des rideaux rouges qu'on peut nommer comme immondes, des petits projecteurs, du bricolage en bar. Parce que je me souviens combien de temps le groupe a été programmé après la décision d'investir les lieux. 15 jours, un mois, je crois. On avait un mois de battement, c'est ça?
Je ne sais plus.
Souvenir. Donc il fallait faire vite. Voilà.
Et c'était quoi le jazz en 84 à Saint-Claude? Est-ce qu'il existait ? Est-ce que, comment, pourquoi monter un assaut de jazz ?
Il faut savoir une chose déjà, c'est que Saint-Claude, ça a toujours été une ville qui a été assez bien orientée vers la musique. Il y a toujours eu une harmonie municipale, ça c'est déjà une chose. Il y avait aussi dans la maison, là, la maison du peuple, ils avaient une chorale, il y avait aussi l'harmonie. Donc voilà, il y avait déjà une pratique qui existait et qui a toujours perduré à Saint-Claude. Et c'est pas pour rien, je pense qu'on s'est retrouvé à plusieurs copains déjà à faire de la musique en amateur, c'était au sein des Amis des Arts. Voilà, on avait commencé comme ça, en fait, avant
l'Arsène,
de faire la diffusion.
C'était une section voilà. qui était au sein des Amis des Arts, qu'on avait nommé l'Arsène. Alors, c'est un peu connoté, je dirais, mais voilà, donc ça a fonctionné, comme Thierry bien l'a décrit précédemment, pendant peu de temps, parce qu'il y a eu des petits conflits avec la personne privée qui nous accueillait dans ce fameux café.
Ça, c'est ce qu'on appelle Rochefort, c'est ça ? On a
voilà.
Entendu tout à l'heure. On
a dit, alors, oui, le T à la fin de Bistro Canon, c'était le D apostrophe. Parce que, étant donné qu'on avait un peu rué dans ces plates-bandes, dès qu'on a pris les lieux, on a continué avec cette appellation, Jazz au Bistro. Et puis, bien, on s'est retrouvé avec des problèmes. Et on a seulement rajouté un D apostrophe à Jazz sur les affiches, c'est tout, l'affaire a été réglée. Voilà, tout début.
Mais pour revenir au jazz, à l'origine, l'idée, c'était pas faire que du jazz, hein, parce que, entre autres, on a programmé en groupe, souvent. Il y a eu des choix qui ont été faits sur le blues, sur des choses qui allaient plutôt sur le rock. On a même fait du folk,
bien sûr.
Irlande. Écossais, irlandais. On a tout eu. Donc voilà. Mais après, là, il y a eu une petite connotation de jazz qui est venue parce qu'il y avait un vivier de musiciens autour de nous.
Ça, c'est pas de ma faute.
Et puis, il s'est trouvé que pour faire évoluer la structure, petit à petit, on est rentré dans des fédérations. Déjà, la première chose, c'était le festival Jazz en Franche-Comté. C'était qui programmait sur toute la région, donc on s'est raccroché à ça pour faire des événements plus importants, parce qu'on était toujours après chercher les sous, évidemment. Voilà, puis après, il y a eu la Fédération des scènes de jazz, etc. Ça allait beaucoup plus loin. Mais...
Est-ce que le lien aux institutions était simple à l'époque, en 84, quand on lançait ? Alors, on est juste après le début de la deuxième décentralo, Mitterrand au pouvoir, etc. Le jazz s'institutionnalise, il y a un orchestre national de jazz qui est créé aussi, avec François Janot à la tête. Est-ce que ça, c'est, du coup, ça souffle un vent plutôt meilleur pour vous quand on est amateur et qu'on veut se professionnaliser, enfin en tout cas se fédérer et puis créer des concerts de jazz ? Est-ce qu'on a une bonne écoute du fait de cette période-là, ou est-ce qu'au contraire, à Saint-Claude, on est regardé d'un œil... Tout à l'heure, voilà, on vous demandait s'il y avait des curés parmi vous avant de vous laisser les clés. Le jazz, ça reste quand même une musique américaine, pas forcément tout à fait... On est encore un peu dans la guerre froide en 84.
L'originalité pour nous, c'est qu'en fait, on a eu une reconnaissance au niveau de la Direction régionale des affaires culturelles avant d'avoir une reconnaissance locale. Parce qu'effectivement... En posant cette question, à savoir si on avait des origines, des relations avec le clergé, c'est qu'effectivement, vous êtes à Saint-Claude. Et Saint-Claude, c'est une ville, effectivement, très chargée d'histoire. Entre donc, le parti ouvrier et le côté plus blanc, comme on dit, blanc, en opposition au rouge. Et donc, si vous voulez, effectivement, on est dans un lieu identifié de cette couleur, la dernière, le rouge. Et du coup, il y avait un gros antagonisme, si vous voulez, entre ce qui était développé ici au sein de la FRAT, même si c'était en devenir, et les élus de l'époque. Et, voilà. Et ça dure encore un petit peu. Enfin, bon,
on me dit
je n'irai pas trop là-dessus.
Un peu, ouais.
C'est un héritage historique, simplement. Donc, en tout cas, effectivement, c'est parce qu'on a eu donc, cette dynamique à se rapprocher d'un festival avec une renommée, une portée régionale, etc., qu'on a été identifié par la DRAC, et que finalement, c'est à travers cet organe-là qu'on a pu commencer à être reconnu et avoir une reconnaissance beaucoup plus large.
Jusqu'à, alors vous parliez de blues, vous parliez de folk, vous poussez le bouchon un peu plus loin, on peut parler de free jazz, vous avez accueilli des gens comme Ossaner, des gens comme Gibert, Alain Gibert, Larfi, etc. Enfin, c'est quand même des propositions qui sont quand même assez, j'allais dire couillues, mais je vais dire pointues, parce qu'on est à la radio et qu'il faut être un
au
peu...
Au niveau free, on a fait mieux que ça, hein.
Pire,
à l'époque, c'est moi qui faisais la programmation. Je m'en suis pris plein les dents pendant deux ans. Parce qu'on faisait de la musique brutiste, musique contemporaine, avec des machines. On a eu des choses de ce genre-là. Alors, c'est drôle parce que les réactions du public, souvent, étaient complètement inattendues. Des fois, ça passait très bien sur des choses que moi, je pensais difficiles. Et puis, d'autres fois, ça ne passait pas du tout. L'exemple le plus frappant, ça a été un trio qui avec Peter Brossmann, saxophoniste allemand.
Ouais.
C'était un magnifique trio. Il y avait, la salle était pleine. J'ai dit, ce truc-là, ça passera pas, mais je m'en fous, on y va, c'est tellement beau. Mais les gens sont rentrés dedans, mais incroyable.
Et c'est le trio historique avec Benning et...
Oui. Ah avec, oui, non, c'était avec David Holmes, Ken Carter.
Oui, qui est pas Peter Brossmann. Le plus baisant des trios. Et ça, ça fonctionne, ça marche. Les gens vous suivent quand vous proposez des choses comme ça.
Il y avait un public... moi, je trouve qu'il y avait un public qui était assez docile. Enfin, bon, entre Thierry, Alain, les autres personnes qui ne sont pas là ce soir, qui pourraient témoigner aussi de la complexité de cette programmation, il y avait des petites oppositions entre nous. Quant à la programmation, ce que j'aimerais dire vite fait, c'est que ce qui a amené cette programmation d'un jazz, d'une musique improvisée de haut vol, c'est aussi la disponibilité du public de l'époque. Parce qu'en fait, tout ça s'est amorcé avec une musique, je dirais entre guillemets, plus populaire, plus accessible, mais il y avait un énorme potentiel. Et curieusement, nous, on avait sous-estimé ça. C'est-à-dire avec nos mises en place de Brigitte Brock, on avait sous-estimé qu'un jour, ça allait prendre une telle ampleur, c'est-à-dire même finir aux instants chavirés à Paris, des allers-retours un peu intempestifs, mais c'était quand même très curieux. Et moi-même, qui avait du mal à m'imprégner de cette modernité, j'ai toujours eu cette réticence, mais quand même, j'ai joué le jeu, pour tout dire, pour être sincère.
Est-ce que cette musique-là, on peut aussi la rapprocher, Alain, tu parlais de Brossmann, aussi de sa force politique, le free jazz, la musique improvisée, voire en limite brutiste, a une vraie énergie politique aussi. Enfin, souvent, il y a une revendication ou un mode de vie, un mode de pensée qui accompagne les musiciens qui la pratiquent. Est-ce que c'est peut-être ça qui a facilité aussi l'accueil de ces musiques-là dans un lieu comme la Fratte?
Bah,
c'est juste votre force de conviction.
Non, c'est pas tant sur l'axe politique. C'est ce qui explique l'essor du lieu, c'est surtout le fait que c'était un lieu qui était en plein développement. Il y avait une demande. Effectivement, le public, au début, à Saint-Claude, il ne se passait pas grand-chose. Hein. Il y avait une boîte de nuit, sinon. Donc, le samedi soir, c'était Jazz au Bistrot, parce que c'était la sortie de Jazz au Bistrot. Ça explique beaucoup de choses. À cette époque-là, les gens voyageaient moins que maintenant. Il y avait plus de population aussi, donc forcément, le public se retrouvait ici. D'ailleurs, les premiers temps, on avait beaucoup de mal à gérer les soirées, quand ça bougeait beaucoup. Ça picolait beaucoup aussi, d'ailleurs. voilà. Et petit à petit, les choses se sont stabilisées. Mais effectivement, on a eu beaucoup d'échanges avec d'autres lieux, comme les Instants Chavirés, qui sont des lieux les plus en pointe au niveau des musiques improvisées. Et ça a été une des premières approches qu'on a eues avec des gens à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs avec eux qu'on est rentré dans la Fédération des scènes de jazz. Et après, une fois qu'on a été là-dedans, ça a entraîné plein d'autres choses, parce que... au niveau de la Fédé, ben notamment Claude Chamichian pourra en témoigner, on a fait venir le Grand Lou Zazak,
ouais,
qui était une tournée organisée par la Fédé à l'époque. Et on a souvent organisé des concerts dans ce cadre-là.
Donc, dès le début, il y a eu cette idée aussi de mettre la Fraternelle en réseau avec d'autres fédérations, d'autres lieux de jazz, enfin, ou des clubs même peut-être plus historiques. Ça, c'est une volonté presque limite, enfin, naturelle quand on connaît l'histoire du lieu.
Tout à fait, complètement. Et on a organisé une fois l'Assemblée Générale des scènes de jazz ici. Et on avait fait une table ronde sur l'évolution des lieux. Et c'était surprenant de voir à quel point on avait des expériences similaires, en fait. On était tous partis du bénévolat, et petit à petit, les gens ont salarié. Et c'est naturellement qu'on a retrouvé forcément des collaborations. La plus belle qu'il y a eu, ça a été avec Jazzy Tipo, où on a coproduit un CD avec un enregistrement ici, avec Jean Houssaner, le trio Jean Houssaner, le trio Cache Cache.
Les constellations aussi. Non, ça c'est les constellations.
Ah, ben ça c'était plus tard, oui. Mais ça c'était une création propre à nous,
oui, constellations. Une résidence.
Avec Jean-Luc Capozzo, oui.
Taxman. On a plutôt l'impression d'entendre qu'à chaque fois, la période un peu free, 60-70, il y a peut-être de moins en moins de monde qui assiste au concert. Toi, Alain, tu nous dis justement que tu faisais venir des gens, c'était carton plein. 40 ans après, là, aujourd'hui, ça semble être un peu la même chose, même si nous, on est dans la salle des expositions, donc on ne voit pas forcément le monde qu'il y a dans la cour à ce moment-là qui nous écoute. Mais est-ce que finalement, l'histoire de Jazz au Bistrot, ce n'est pas aussi de montrer que sur... quasiment, allez, on va dire, à 40 années d'écart, là, maintenant, le jazz, c'est resté un art populaire aussi.
Même si tout le monde pense le contraire.
Non, mais je sais pas, Thierry.
J'ai pas entendu la fin de votre phrase.
La fin de ma phrase, c'était est-ce qu'on peut dire que 40 ans en arrière, là, en regardant le Jazz au Bistrot, finalement, contrairement à ce qu'on peut entendre aujourd'hui, que le jazz, c'est quelque chose d'élitiste, en fait, c'est resté une musique populaire aussi, qui s'adresse au plus grand monde.
Disons que la programmation qu'on a faite, là on est en train de parler effectivement d'une certaine esthétique qu'on a programmée, mais on n'a pas fait aussi que ça. On a eu des groupes comme Slapscat. Ça c'est du jazz traditionnel, si vous voulez. Avec moi j'en ai un souvenir extraordinaire, dans la mesure où vraiment les gens, c'était la fête. Mais vraiment c'était la fête, quoi. Donc en fait il y a eu tout un tas d'expériences ici. Et effectivement, on avait cette qualité à pouvoir aussi confronter nos oreilles à une musique effectivement assez avant-gardiste, mais pas que. Il y avait tout ça. D'ailleurs, de toute façon, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, il y a eu effectivement des allers-retours, bien sûr, au niveau de la programmation. Alain tirait un petit peu d'un côté, moi de l'autre, etc. Et c'est justement ça, l'histoire du Jazz au Bistrot, c'est que c'est une affaire de collectif. Et c'est ça, je pense, qui est très important.
Moi, je suis moins musicaux que mes collègues, mais en tant qu'usager de la fraternelle, je me souviens qu'il y a eu quand même les débuts de la Grande Sophie, donc qui faisait de la variété, quoi. Donc, c'était pas un truc complètement élitiste, réservé à une élite. Et je reviens aussi au niveau de la promotion du jazz. Comme c'est une maison pluriculturelle, il y a quelqu'un qui a beaucoup bossé en collaboration avec le jazz, c'est Michel Bastien qui était à l'imprimerie, qui faisait toutes les affiches en sérigraphie qu'on allait coller partout, qui étaient des affiches de qualité, et aussi ça contribuait aussi au lot inclusif du jazz, c'est-à-dire qu'on faisait la totale, quoi. On faisait la promotion, on imprimait les affiches ici, des affiches qui tenaient vraiment la route. Et on était vraiment identifié sur Saint-Claude comme espace, pas uniquement ce que disait Alain tout à l'heure, d'un public initié, mais c'était un lieu de rencontre et un lieu festif, comme tu disais, Thierry. Il y a des gens qui venaient là, qui poussaient la porte, même si c'était Jazz au Bistrot, qui n'étaient pas des férus de free jazz ni de jazz, mais c'était un lieu de rencontre et un lieu populaire où il se passait un truc, où il y avait des soirées où c'était vraiment la fête, quoi. La fête au point que on se faisait parfois déborder parce que c'était un peu le bordel, dans la mesure où les gens venaient en soirée pour boire des canons au bord. On était obligé de fliquer un peu, dans la mesure où l'espace... Non, mais on peut se le dire. C'est-à-dire qu'au début... on a fait un bistrot, on était tous déguisés un peu en pingouins pour donner en barman, pour donner une identité bistrot sérieux. Mais rapidement, ça picolait pas mal, en même temps que les gens jouaient. Donc c'était un côté assez coolos. Mais au niveau de la qualité d'écoute, des gens qui étaient venus là pour écouter, bon, ils étaient un petit peu déçus. Donc avec les années, on s'est un peu... on ne servait pas de consomme pendant les sets des musicaux. Donc voilà, on a toujours été dans cet entre-deux où il y avait à la fois de la zik pour initier, pour pur jazzer, on va dire, avec des gens qui venaient de loin, hein, Et puis il y avait les clampins moyens de la ville qui avaient envie de traîner, puis qui voyaient de la lumière, et qui venaient dans un endroit sympa. Donc on était là-dedans, on n'était pas club de jazz, uniquement, enfin je ne sais pas si... Ouais.
En gros, vous êtes arrivé au moment où Saint-Claude avait besoin de bordel.
Voilà, je dis ouais.
Mais il faut comprendre quand même qu'il y a... on a réussi à faire prendre une certaine mayonnaise, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'on était un groupe assez nombreux, donc forcément le bouche à oreille fonctionnait, les copains des copains venaient. Ensuite, il y a le fait qu'il y a eu un contact entre les musiciens et le public. Donc on retrouvait souvent des gens qui voulaient, ben encore ce soir, il y a des admirateurs de Chami Chang qui sont là parce qu'ils connaissent Chami Chang, parce qu'ils ont déjà discuté avec lui quand il est déjà venu, voilà. Et puis on a fait plein d'actions, au départ on faisait toujours des concerts en deux parties, une première partie qui était plutôt régionale, voire amateur certaines fois, voire avec des musiciens amateurs d'ateliers que nous on avait créés dans la maison. Donc tout ça fait qu'il y a une émulation, il y a une dynamique qui se crée. Et c'est aussi ça qui explique qu'il y a eu une envie de vivre quelque chose qui était en pleine ébullition. Quoi. Et je pense que d'ailleurs la dynamique, elle continue. Hein.
Et vous avez su habiter un lieu qui est propice, vous parlez d'échanges, de rencontres, de fêtes. Enfin, je ne sais pas si c'est un effet du phalanstère à la Fourier, mais en tout cas il y a quelque chose qui tourne en cercle vertueux. Non. On dit ça continue encore, il y a eu la passation, est-ce que ça a été une histoire de génération, une confrontation de génération, non, on prend le relais mais pas comme vous le faisiez, ou alors on prolonge ce que vous avez fait, c'est vraiment une question d'historien presque. Et toute dernière question pour terminer sur cette magnifique parenthèse de la frappe du début depuis 84, quel est votre regard, vous, aujourd'hui, sur le lieu, sur ce qui s'y pratique? Est-ce que vous le jugez aussi comme un prolongement ou au contraire comme des ajouts sur ce que vous aviez manqué ou au contraire des ruptures avec ce que vous aviez initié?
Je peux répondre déjà sur l'évolution structurelle, c'est-à-dire qu'il est arrivé un moment dans l'association où le bénévolat ne pouvait plus donner. Il y avait tellement de contraintes techniques, matérielles, de sécurité, etc., qu'on était obligé d'avoir des salariés pour nous épauler. Et les premiers salariés, ça a été assez épique d'ailleurs, parce qu'on n'était pas des vrais patrons et des vrais gestionnaires. On a eu des objecteurs, on a eu des emplois jeunes, voilà, on a commencé comme ça, jusqu'au jour où on a dit il nous faut un directeur. Alors on a embauché un premier secrétaire général parce qu'on ne voulait pas l'appeler directeur.
C'est marrant parce que ça perdure en fait. Hein. On devait recevoir, excuse-moi de te couper, mais c'est juste pour l'anecdote, on devait recevoir Christophe hier pour ouvrir le bal de cette radio Festoche et en fait nous a demandé modestement de le décaler à dimanche à la fermeture parce qu'il ne voulait pas être le directeur qui ouvrait le festival et la radio. Il voulait, donc on a fait les coprésidents et on vous reçoit vous avant de recevoir lui en tant que directeur. Je crois qu'il déteste ce mot d'ailleurs, donc je vais le répéter une fois, il est directeur.
Oui. Donc alors après,
général.
Voilà. Et après, pour trouver le bon directeur, ça a été encore une autre paire de manches. On a été un peu même, on s'est mal conduit, on peut dire, parce qu'on a été obligé de licencier certaines personnes. Moi, j'en garde encore des mauvais souvenirs. Mais en tout cas, personnellement, ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment heureux de voir que, enfin, il y a quelqu'un comme Christophe qui est en plus quelqu'un qui est vraiment dans le milieu jazz. Et qui arrive à développer la structure qui va complètement dans le bon sens. Quoi. Et aujourd'hui, c'est professionnalisé. Et je dirais, tant mieux, tant qu'il y a un lien avec une base bénévole. Ça, c'est très important. Parce que des lieux comme celui-ci, le jour où ça devient que professionnel, j'y crois plus. Voilà.
Et là, on rappelle, hier, on a appris, il y avait eu 400 bénévoles, je crois. 400 sur la tour.
Oui, je crois que pour en revenir à votre question préalable, effectivement, le fait que donc petit à petit, il y a une phosphorisation avec les musiciens qui sont passés ici, qui donc ont emmené leur public, etc. C'est vrai que ça a fait que ce lieu a pris de plus en plus d'ampleur, à tel point que j'ai envie de citer quand même le fait qu'on a été identifié par Jazzman. Donc Jazzman, c'est un magazine. Hein. National, donc comme le troisième meilleur club de jazz en France hors Paris, ce qui quand même met un petit peu la barre haute, et on est super content parce que ça s'est fait justement de manière un petit peu empirique, comme expliquait Alain tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'avait pas tout anticipé, mais que petit à petit, en rencontrant ces musiciens, on a aussi réalisé pas mal de choses, de ce qu'on pouvait faire ici dans ces lieux, avec le public, etc. Et c'est vrai que c'est une superbe histoire, ça nous a demandé beaucoup d'énergie, on a donné beaucoup de notre jeunesse dans ce lieu. Et par rapport à la suite, y a, de toute façon, des problèmes de gouvernance, y en a toujours dans les associations, c'est pas facile. Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, moi aussi, je suis très content de voir que la musique existe toujours autant ici. Je regrette un petit peu que le label ait changé parce que Jazz au Bistrot, à mon sens, était un super label. Bon, enfin, voilà, c'est l'évolution qui nous échappe. Mais c'est pas grave, sorti de ça, tout va bien. Et Jean-Louis aussi, peut-être.
Moi, j'aurais du mal à parler de ce qui se passe au sein de la programmation actuelle, parce que j'ai quitté les lieux il y a déjà une paire de temps. Et bon, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu à un concert, donc c'est difficile pour moi de faire un constat sur le fonctionnement de la programmation de jazz et autres. Par contre, pour conclure, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un moment donné où il n'y a pas que le jazz qui a soulevé, qui a fait renaître de ses cendres ce lieu. Il y a beaucoup d'autres sections. Et en fait, je pense que chacune entre elles se fédérait. Et ça, j'aimerais en parler pour conclure aussi. Certes, comme Thierry, par le biais des interventions techniques et moi, la lumière et autres, on faisait des allers-retours entre certaines sections, c'est-à-dire il y avait le théâtre, il y avait des travaux aussi en cours, donc il fallait poser du placo, il y a eu des années de travaux, des dimanches entiers. Donc il y a aussi toute une équipe autour du jazz de gens qui ont permis aussi à ce café d'être soutenu et soulevé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut citer. Voilà.
À ce sujet-là, une petite anecdote, on organise aussi des concerts du côté de Dijon où on est basé avec M. Taxman. Et on a proposé à Christophe de recevoir un groupe qu'on suit qui fait du jazz punk. Et ce groupe est venu en résidence une semaine au mois de mars dernier. Et tous les soirs, il logeait donc juste au-dessus, et tous les soirs, il retrouvait les habitués du café pour une discussion, un apéro, etc. Et le dernier soir, on a improvisé une sortie de résidence, et c'était presque un repas de famille. En fait, moi, je les ai rejoints vraiment cette dernière soirée, et j'étais surpris à quel point tout le monde se connaissait, s'appelait par son prénom, et savait déjà de quel instrument il jouait, quel était le groupe amateur dans lequel il avait joué. C'était échangé du son, des disques, des références, et de la discussion, même privée, de l'ordre du privé, qui faisait quoi dans sa vie, combien d'enfants, etc. Et les discussions étaient presque des discussions d'habitués, et ça s'est créé en 4 soirées. À peu près. Et je trouve que ce lieu-là, alors j'imagine que ça vient de tout ce que vous avez pu mettre en place, de ce fameux bricolage de 84, c'est encore très 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 fort et très présent aujourd'hui.
Mais c'est peut-être aussi une reproduction de ce qui s'est passé dans l'Estaminet il y a bien des années, quand tous les ouvriers déboulaient dans la rue et que c'était blindé, quoi. Effectivement, c'est aussi, je ne sais pas si c'est un modèle qui perdure. Je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, on a organisé des repas pour les bénévoles, pour les gens de l'asso à 1,80€, voilà, faire les fonds de cajot du marché. C'est un état d'esprit, c'est tout. Et maintenant, je ne peux pas trop parler de ce qui se passe ici, mais c'est, en tous les cas, c'est fabuleux de faire ce constat, quoi.
Moi, il y a un enjeu qui est quand même très important, et Alain, il a beaucoup insisté là-dessus. C'est que Jean-Louis a parlé des travaux là, qui ont été très chronophages parce qu'on a passé énormément de temps à l'imprimerie, à la rénovation. Ben, pour des choses très très techniques, on a fait appel à des professionnels. Mais s'est posé la question il y a quelques années de tellement les travaux, la mise en sécurité était importante. Enfin, c'est une idée qui a germé quand même avec les pressions du... On a fait des réunions en préfecture avec le conseil régional, avec tous les soutiens, les mairies, la communauté de communes, etc. Est-ce qu'on avait les épaules en tant qu'association pour assumer 4000 m² de locaux? Et c'est quand même une curiosité qu'une association soit propriétaire de ces locaux. Et Alain, qui est là, qui a été quand même un peu le garant d'esprit frateux, on va dire, il a insisté lourdement et avec du recul, moi, j'étais pas toujours d'accord avec lui parce que je me dis tout le temps qu'on passe pour bosser là-dedans et toutes les sommes qui sont englouties pour le lieu, peut-être qu'en pure animation, on aurait une programmation plus riche et on mettrait moins de fric dans les travaux, même si ce n'est pas les mêmes budgets, les mêmes enveloppes. Mais je pense que le fait de posséder les locaux, l'association, ça a joué énormément pour que le lieu perdure et qu'on soit en toute liberté pour faire ce qu'on voulait à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'était pas céder à la mairie qui ferait des soirées choucroute ou des lotos sans être parano ni méprisant. Mais c'est par rapport au début, et tous les jeunes qui ont repris et les 15 salariés qui sont maintenant là, le fait d'être dans leur mur, ça permet d'être complètement libre au niveau d'être proprio, en gros, d'être complètement libre au niveau des actions qui sont à mener. Et je trouve ça fondamental. Même si je n'étais pas tout à fait d'accord sur le truc, mais dans les conseils d'administration, dans la programmation, dans toutes les assos, ça a toujours été débat, discussion, à n'en plus finir. C'est aussi ce qui fait la richesse du lieu, quoi. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Alain.
La liberté, c'est acheter à ce prix-là, Alain.
Je veux juste rajouter que dans les derniers événements, quand même paradoxaux, on s'est battu pendant des années pour que le lieu soit reconnu. Ensuite, on a eu les subventions. Après, on s'est battu pour que la Comcom nous reconnaisse comme le lieu privilégié de la culture sur le territoire. Et ce qui se passe aujourd'hui, ben là où est le gros paradoxe, c'est que la ville de Saint-Cloud vient de décréter qu'elle n'avait plus de budget culture. Et le maire a dit que c'était la fraternelle qui devait jouer ce rôle-là, sachant qu'il n'a pas augmenté les subventions pour autant. Et puis que la Comcom est bien contente également de se reposer sur la fraternelle. Et c'est là qu'aujourd'hui, il y a peut-être un danger, mais ça, je laisse faire les nouveaux, c'est plus mon affaire.
Mais laissons les nouveaux face au danger, face aux troubles des temps à venir. Je crois que d'après ce qu'on a pu entendre hier, ils ont les armes, en tout cas ils réfléchissent à comment les fourbir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Merci d'avoir débattu avec autant de plaisir, autant de bonheur à transmettre cette expérience-là qui reste vivace. Il ne s'agissait pas d'un cours d'histoire, il s'agissait au contraire d'une prise de témoignage, d'une langue et d'une parole vivante. Encore merci, bonne soirée, longue vie à la fraternelle. J'espère que la liberté que vous avez su mettre en place perdurera, comme on dit du côté de Yona, Inch'Allah.